Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1986. Dans ce deuxième épisode, une première en France, la cohabitation. Les colonnes de Buren qui mettent les Parisiens en pétard. Les hommes politiques qui se mettent à la propagande sur Minitel. Une vedette de 86 qui est la portugaise Linda de Souza. Et deux légendes du sport, Maradona et Tyson.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
En mars 1986, les Français votent pour les législatives et ensuite pour les régionales. Une semaine avant le scrutin, cette campagne est endeuillée par un meurtre. Philippe Brocard, 35 ans, militant du Parti Socialiste, est tué alors qu'il colle des affiches dans les rues de Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines. À un moment donné, il décolle une affiche de Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas à son bon emplacement. À ce moment-là, 10 colleurs d'affiches du FN lui tombent dessus. Un conseiller municipal qui était avec lui, Jean-Jacques Gaucher, raconte.
À partir de là, tout s'enchaîne, couteaux qui sortent, bousculade, je me retrouve derrière, je me retrouve par terre, j'entends des cris, c'est mon camarade qui vient d'être poignardé. Ils avaient 20-25 ans, responsables, je sais pas, déterminés certainement.
Pour soustraire Philippe Brocard à ses agresseurs, le conseiller municipal a dû le traîner mourant sur une centaine de mètres. Et Philippe Brocard décède quelques heures plus tard, aux urgences. Les 10 agresseurs sont très rapidement arrêtés. L'un d'eux est un sergent de carrière et il est membre du Front National. Et il avoue être l'auteur des coups de couteau mortels. Jean-Marie Le Pen, lui, dénonce un complot contre son parti.
Alors je peux vous dire une chose, puisque, encore une fois, le système de désinformation d'État a fonctionné... Quand l'enquête aura démontré qu'il ne s'agissait pas des gens du Front National, je porterai plainte contre l'ensemble des journaux qui ont répandu une fois de plus un mensonge et une diffamation, et ceci en pleine campagne électorale. Nous nous attendions à des faits de provocation de ce genre. Mais comme le personnage dont vous parlez a parlé de gens crâne rasé, il n'y a pas de militants du Front National, ni en tenue militaire, ni en crâne rasé.
La campagne pour les législatives se poursuit dans un climat tendu. Et le 16 mars 1986, les résultats sont extrêmement serrés, au point qu'à 20h, on ne sait toujours pas qui l'emporte.
Nous sommes dans une situation absolument inattendue, où toutes les hypothèses politiques qui avaient été faites avant sont maintenant déjouées par le suffrage universel, et nous allons attendre probablement jusqu'à assez tard ce soir pour avoir le dernier résultat en siège. Nous allons peut-être avoir une majorité à 2 ou 3 voix, peut-être manquera-t-il 2 ou 3 voix à la coalition RPR-UDF.
Les résultats finissent par tomber tard dans la soirée, et c'est la droite qui l'emporte, avec 290 sièges contre 212 pour la majorité présidentielle de gauche. Au passage, le Front National entre à l'Assemblée avec 35 députés. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président de gauche, François Mitterrand, doit nommer un Premier ministre de droite, avec lequel il devra cohabiter. Deux hommes sont favoris. Jacques Chirac, le patron du RPR, maire de Paris, et Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux. 2 jours après les élections, les deux prétendants se rencontrent à la mairie de Paris. Les journalistes sont aux aguets.
Nous sommes ici chez le maire de Paris.
Mais qui souhaite qu'il y ait un peu d'ordre.
Voilà. Il est venu soutenir l'autre, s'il vous plaît.
Je vous dis tout de suite que nous n'avons aucun commentaire. Monsieur Jacques Chaban-Delmas m'a très gentiment et très amicalement rendu la visite que je lui ai faite à Bordeaux jeudi dernier, où il m'avait reçu avec une courtoisie et une amitié à laquelle j'avais été profondément sensible.
Voilà. Aujourd'hui est un jour particulier.
Mère à mère.
Vous venez de l'entendre, c'est le maire de Bordeaux qui est venu faire une visite de courtoisie au maire de Paris. On reste tout de même un peu sur notre faim. Une heure de tête-à-tête entre deux possibles premiers ministres, un mardi 18 mars 1986. Tout ça pour des politesses. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Le suspense est de courte durée. Le choix de François Mitterrand est annoncé quelques heures plus tard.
C'est à 17h30 précise en effet que les grilles de l'Elysée se sont ouvertes pour laisser entrer une Renault 25 gris métallisée. Jacques Chirac en est descendu, 150 photographes et journalistes l'attendent depuis ce matin. Il restait 30 mètres à parcourir. Monsieur Chirac a monté le perron sans se retourner. Il avait le visage impassible, assez fermé. Le moment, on le sentait, était solennel. Pas de photo pour la poignée de main entre François Mitterrand et son hôte.
Et le 20 mars 1986 débute la toute première cohabitation. Mais François Mitterrand a prévenu. Monsieur Chirac, je garde la main sur les dossiers sensibles. Pas de roublardise. Vous me tenez au courant. J'ai retrouvé dans nos archives une émission de ce jour-là. Sur Europe 1, à 16h, Coluche officie dans « Il y en aura pour tout le monde ». Alors qu'on suppute sur la composition du futur gouvernement, lui, il sulfate.
Et de toute façon, le mec qui sera ministre des armées, il portera le mieux de son nom possible. Oui. Il sera désarmé, le mec. De toute façon, c'est le président qui s'en occupera. C'est comme celui qui va être aux affaires étrangères, il va être étranger aux affaires. Parce que ça aussi, c'est le président qui s'en occupera, il l'a dit. Hein.
Bah, c'est normal, c'est dans ses...
Oui, enfin, on va se marrer. À mon avis, on va se marrer.
Coluche revient aussi sur les élections régionales, qui, elles, ne sont pas terminées. Le deuxième tour a lieu dans quelques jours. Et si elle veut prendre certaines régions, la droite va devoir s'associer au Front National. Et pour Coluche, c'est inenvisageable.
À part ça, pour en revenir à la politique, il y a 5 régions de France où la droite n'aura la majorité qu'avec l'extrême droite. Alors, on ne sait pas s'ils vont finalement faire un pacte sur ces 5 régions de France avec Le Pen ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ils sont au pied du mur, et même peut-être au pied du mur de la honte. Parce qu'à mon avis, politiquement, celui qui va s'allier avec le Front National, il aura du mal à s'en remettre.
Parmi ces 5 régions qui peuvent basculer à condition d'une alliance droite-extrême droite, il y a la région PACA, qui est socialiste depuis 12 ans. Le lendemain de la sortie de Coluche, Jean-Claude Gaudin s'allie avec l'extrême droite pour devenir président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Se sent-il au pied du mur de la honte? Ah ben non.
Au second tour, le Front National a retiré son candidat et a appelé à voter pour moi. Je suis donc élu avec 72 voix. Président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais pourquoi une voix d'un élu du Front National ne vaut-elle pas une voix d'un ami de M. Marché ? Je suis légalement élu. Et je ne suis, quand on me connaît, prisonnier de personne. Je ne fais rien d'autre que d'appliquer la loi. Et si vous voulez un peu me provoquer, je dirais qu'en d'autres temps, M. Mitterrand, il acceptait bien les voix de M. Tixier-Vignancourt. Je vois pas pourquoi moi, étant candidat, je n'accepterai pas les voix d'élus qui veulent voter pour moi.
D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, tu te retrouves seul assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière, mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. C'est à ça, faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle, dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent. Chance qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord.
C'était Francis Cabrel en 1986 avec son tube Encore et Encore.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
En 1986, le président François Mitterrand est au pouvoir depuis 5 ans et il inaugure de nombreux chantiers culturels parisiens qui ont été lancés par son prédécesseur. D'abord, le 13 mars 86, c'est la Cité des sciences et de l'industrie, au nord de Paris, dans le quartier de la Villette. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a décidé de cet emplacement qui était au départ destiné aux abattoirs parisiens et qui est donc devenu un lieu culturel.
Ainsi s'achève heureusement un des plus célèbres scandales financiers des années 60. Les abattoirs, construits à grands frais, n'avaient jamais fonctionné et finalement, Valéry Giscard d'Estaing avait réorienté le projet en 78 vers cette cité des sciences inaugurée aujourd'hui par François Mitterrand.
Ce bâtiment de 150 000 mètres carrés est un monstre de verre, de béton et d'acier. Il est inauguré 10 ans après Beaubourg et il provoque beaucoup moins de polémiques, comme le constate le président de la Villette, Maurice Lévy.
Vous pensez qu'il sera aussi critiqué que Beaubourg ou que c'est dépassé ?
À mon avis, il sera beaucoup moins critiqué que Beaubourg parce que si on regarde de plus près, extérieurement, c'est un bâtiment moins révolutionnaire, moins provoquant. Et intérieurement, c'est un bâtiment qui a une très grande beauté et qui frappe tout le monde du premier abord. Je n'ai pas encore eu une seule critique sur l'architecture intérieure de la cité. Donc je pense que ça ne sera pas du tout critiqué, d'autant plus que, comme vous le dites, que Beaubourg a déjà préparé les esprits et que cette querelle est maintenant vraiment dépassée.
En 1986, un autre projet culturel fait en revanche beaucoup de remous, la réhabilitation de la cour d'honneur du Palais Royal en plein Paris, entre la Comédie Française et le ministère de la Culture. Jack Lang est alors ministre de la Culture et il a choisi le projet de l'artiste Daniel Buren. 260 colonnes de différentes tailles, ornées de bandes noires et blanche. La droite déteste ce projet. Et d'ailleurs, le maire de Paris, Jacques Chirac, parvient à faire stopper les travaux. Et Daniel Buren doit aller défendre son travail chez Jean-Pierre Elkabbach.
Vous souhaiteriez, Buren, que votre œuvre tout entière, c'est-à-dire les 250 ou 280 colonnes avec les bandes en noir et blanc, soit installée, que l'œil regarde, peut-être s'y habitue, et que si ça ne plaît pas, qu'on les supprime ou qu'on les détruise, mais au moins qu'on attende la création finale.
Exactement, qu'au moins on puisse terminer une chose commencée, et surtout que cette chose commencée apporte tout un tas d'éléments qui sont d'ailleurs finis dans leur construction, qui sont quand même une fontaine qui sera la deuxième fontaine de Paris au point de vue de sa taille, qui est quand même un élément plus qu'important de cet ensemble, et qui devrait, je pense, aussi satisfaire par le fait qu'elle est souterraine, qu'elle apparaît sous les pieds, enfin il y a tout un tas de jeux avec l'eau, qui devrait rendre à cette cour un usage tout à fait nouveau, qui n'a d'ailleurs jamais existé depuis une cinquantaine d'années, puisqu'il y avait des voitures, un point c'est tout.
Dans la foulée, évidemment, les curieux vont voir ce chantier qui vient de s'arrêter.
A priori, je ne suis pas hostile, il faut voir.
Ça choque beaucoup, à première vue en tout cas, parce que ce noir et blanc, ça jure avec le cadre classique.
C'est un peu dégueulasse pour Buren de le faire arrêter au milieu comme ça. Mais en même temps, c'est une chance parce que ça va pas du tout ici, quoi.
Moi, je suis tout à fait pour. Évidemment, ça surprend un petit peu au départ. J'habite dans le quartier, ça fait plusieurs fois que je passe. Et plus je passe, plus je me dis qu'après tout, pourquoi pas.
C'est affreux. Moi, je suis du quartier, c'est affreux.
Tout le vacarme qui est fait autour des colonnes de Buren permet au moins aux gens de se déplacer et de venir voir un peu ce que c'est.
Un scandale. C'est un scandale. Et heureusement que nous n'aurons plus Monsieur Lang, j'espère bien, la semaine prochaine.
Eh oui, Jack Lang va quitter son poste, puisque la droite a remporté les élections législatives. Et Jacques Chirac nomme François Léotard ministre de la Culture. Et le nouveau ministre promet d'abandonner le projet des colonnes de Buren. Mais le droit est contre lui. Le projet est engagé, il doit aller à son terme. Bref, les colonnes de Buren sont inaugurées le 30 juillet 1986. Et elles sont toujours là.
L'année 1986.
Beaucoup moins polémique. En fin d'année 1986, François Mitterrand inaugure le musée d'Orsay. Une idée ambitieuse qui est de reconvertir en musée une gare abandonnée.
Cela a été conçu à l'époque de M. Pompidou. C'était une heureuse conception que de vouloir utiliser cette gare que j'ai connue moi-même lorsque j'étais étudiant, car débarquant d'Angoulême, c'est toujours là que j'aboutissais. C'était un lieu vide, abandonné. Plutôt que de se lancer dans des constructions hasardeuses, je pense que l'idée était très heureuse d'utiliser cette gare comme on l'a fait. Ensuite, c'est M. Giscard d'Estaing qui a mis au point le projet, qui a fait les premiers financements. Le principal pour moi, c'était de continuer. Et j'ai continué.
Cette fois, ce nouveau musée parisien charme tout le monde.
C'est incroyable. Je suis bouleversée. Je suis prête à pleurer. Il faut que je revienne avec 2, 3, 4 jours. C'est vraiment sublime. C'est typiquement français. C'est merveilleux.
Je trouvais ça très belle. Merci. C'est beaucoup, beaucoup plus mieux que le Louvre.
C'est ni bien ni moche. Enfin, c'est intéressant en tous les cas, parce que c'est une manière de présenter un peu les œuvres d'art. C'est un musée complet dans lequel on voit toute une gamme de produits sur une époque.
Ah, vous parlez de ça comme des produits qu'on vend dans les supermarchés, là.
Ah bah bien sûr, et l'art, c'est comme ça maintenant. Faut se recycler.
Très bien, à pas se plaindre.
Transcendant.
Very nice.
J'ai été emballée par les pastels, notamment là, l'éclairage discret, éclatant, malgré tout, un enchantement.
C'est la perfection.
Une suggestion. On devrait avoir, puisque c'est un musée moderne, un endroit où il y aurait un peintre actuel ou un sculpteur qui serait en train de faire son œuvre. Moi, je trouve.
Le musée est très bien, on n'a rien contre, mais il n'y a que des morts dedans. Nous, on est des vivants et on voudrait continuer à vivre.
Et vous, vous aimeriez avoir vos œuvres dans ce musée, un jour ?
Mais non, ça voudrait dire que je serais mort.
C'était Nuit sauvage avec les avions qui cartonnent en 1986.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
En janvier 1986, à l'approche des législatives, les socialistes mettent en place un service révolutionnaire sur Minitel. Le VIP, qui a été créé par un groupe qui s'appelle la gauche assistée par ordinateur. Le principe est simple. Chaque semaine, une personnalité socialiste répond pendant plusieurs heures aux questions des citoyens. N'importe quel utilisateur d'un Minitel peut poser sa question. C'est le chat politique de 1986. Le premier qui s'y colle est l'ancien premier ministre socialiste Pierre Mauroy. Les questions doivent être courtes et les réponses aussi. Et Pierre Mauroy apprécie.
Ce qui est extraordinaire dans ce que vous voyez là autour de nous, c'est qu'à partir de la télématique, on peut penser à un média froid. Au fond, c'est une ambiance chaude, ce sont des questions chaudes qui appellent des réponses où finalement il y a un clin d'œil de complicité ludique.
Mais ça risque de prendre tout votre temps, là, jour et nuit, jusqu'au 13 janvier, toutes ces questions.
Je ne suis embauché que pour une semaine, quoi. Hein. Par conséquent, ma semaine va se terminer.
Et bon. Vous êtes prêt à répondre à toutes les questions, même personnelles ?
Oui, absolument, absolument. De façon correcte, quoi.
Alors, ce service s'appelle la gauche assistée par ordinateur. Oui, c'est pas un assemblage de termes bizarres.
Je vois, c'est assisté qui vous fait mal, quoi.
Moi, je lis gauche assistée par ordinateur.
Oui, on peut toujours être assisté par des machines, quoi. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Et c'est bien que la gauche ait le souci de l'ordinateur, quoi.
Bien sûr, la droite doit répondre à cette initiative des socialistes. Et donc, un autre service est lancé par le délégué national de l'UDF, André Santini. Et selon lui, son service militaire est bien plus complet et intéressant que celui des socialistes.
Nous avons dépassé largement le stade de la simple question sur le programme. La gauche assistée par ordinateur, GAO, vous notez au passage qu'elle a besoin d'être assistée pour survivre, nous propose des news, nous propose des remarques sur le programme de la droite et le sien propre. Mais nous allons dans le sens de la messagerie, par exemple. Les responsables de campagne pourront communiquer entre eux, pourront s'adresser à l'UDF. Et puis, n'importe qui pourra bien sûr questionner les différents responsables de nos formations, avoir une réponse enregistrée dans les 48 heures. Et je crois que nous allons donc largement au-delà des services qui sont proposés par les autres.
1986 marque aussi une nouvelle ère télévisuelle, avec la prolifération des chaînes. Au début de l'année 86, on compte 4 chaînes de télévision. TF1, Antenne 2, FR3 et Canal+. À la fin de l'année, on en compte 6. D'abord, le 20 février 86, débarque la 5. Une chaîne conçue par l'homme d'affaires Jérôme Sédou et l'italien Silvio Berlusconi.
La télévision à laquelle nous sommes en train, nous commençons à penser, c'est... pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi.
La 5, c'est du champagne, ce sont des paillettes. Bienvenue sur la chaîne la plus bling-bling jamais vue.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. Merci d'avoir allumé votre téléviseur, merci d'avoir ouvert votre maison et nous l'espérons, votre cœur à la 5.
La 5, c'est un choix supplémentaire, un choix qui existe là, maintenant, depuis quelques secondes.
Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5.
Bonne chance, la 5.
La 5, ça va être super.
La 5, c'est classieux.
Le premier soir, la 5 propose un grand show présenté par Christian Morin et Roger Zabel. Show auquel participent Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Michel Berger et Michel Sardou. Ça commence fort. Et dans les semaines qui suivent, apparaissent les séries télévisées américaines qui vont occuper quasiment toute la grille. Sheriff et moi peur, Star Trek, Wonder Woman, K2000, Arnold et Willy, et encore Supercopter. La 5 arrive aussi avec son lot d'émissions racoleuses, fidèles au programme de Berlusconi en Italie. Exemple, le programme « Chercher la femme ». 4 candidates doivent séduire le public par leur charme, leur humour et leur charisme. La gagnante est élue femme de la semaine et elle remporte un voyage aux Maldives, ainsi qu'un manteau de fourrure. La présentatrice de ce show, la fantasque Amanda Lear.
C'est une très bonne nouvelle pour la France parce que le Français va découvrir une nouvelle télévision. Une télévision à laquelle il n'est pas habitué, mais à laquelle il s'habituera très vite parce qu'elle est très riche, très luxueuse, très grand spectacle, très à la grande, comme on en avait envie depuis des mois et des années. Ce n'est plus le petit show vite fait avec peu de moyens, ce n'est plus le présentateur traditionnel qui oublie le nom des vedettes qu'il présente, je ne ferai pas de nom, mais je veux dire, c'est vraiment le grand truc. Et donc, c'est un grand avantage, un grand progrès pour la France et le téléspectateur va être ravi.
Quelques jours après les débuts de la 5, débarque TV6. Son propriétaire, la Gaumont, Énergie et Publicis. Maurice Lévy, le patron de Publicis, s'explique sur Europe 1.
Notre ambition, c'est de créer à côté des grandes chaînes publiques ou de la chaîne dite généraliste de la 5, une chaîne spécifiquement destinée au public jeune, que les jeunes aient envie de regarder, qu'ils aient envie de se retrouver autour de cette chaîne. C'est une chaîne faite pour eux, avec un ton, un style, une façon d'être qui est la leur.
La droite est vent debout contre les nouveaux propriétaires de ces deux chaînes. Parce que l'un des propriétaires de TV6 n'est autre que Nicolas Sédoux, patron de Gaumont, et frère de Jérôme, qui possède la 5. Alain Madelin, député d'Ille-et-Vilaine, s'insurge.
Après le scandale de la 5e chaîne attribuée au tandem Sédoux-Berlusconi, voici le scandale de la 6e chaîne attribuée à un autre Sédoux en tandem avec la famille Badinter. Alors oui à la privatisation, oui à la 5e chaîne, oui à la 6e chaîne, oui aux lois du marché, mais non aux lois des copains. On ne peut pas accepter cette grande braderie de l'audiovisuel à une partie de la famille Sédoux qui se comporte là comme les Dalton de l'audiovisuel. Et on peut s'interroger sur les liens qui unissent cette partie de la famille Sédoux au pouvoir. Vraiment, je crois que l'attribution de cette 6e chaîne à un Sédoux de plus, c'est un Sédoux en trop.
TV6, chaîne musicale pour les jeunes et largement constituée de libre antenne, est défendue notamment par Serge Gainsbourg.
Vous pourriez nous redonner vos arguments pour le maintien d'une chaîne musicale en France ?
Pour les gamins. Pas pour nous, pour les gamins. Et pour nous aussi, hein, pas déconner. Si on peut plus faire clip, merde.
Et alors à cela, qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
On est dans le fion.
Effectivement, un an après sa création, TV6 est enterrée. Et elle est remplacée par M6, la petite chaîne qui monte, et qui monte toujours.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
En 1986, une chanteuse portugaise est au sommet de sa popularité en France, Linda de Souza.
De valises en carton sur la terre de France, un Portugais vient de quitter son Portugal. Comme tant d'autres, il est venu tenter sa chance. Le Portugais qui a quitté son Portugal.
Linda de Souza a vendu 2 millions d'exemplaires de son livre « La valise en carton ». Dans cette autobiographie, elle raconte son enfance misérable au Portugal et son départ pour Paris, seul, avec son enfant sous le bras. Et une simple valise en carton. La suite tient du conte de fées. Linda de Souza passe de femme de ménage à chanteuse à succès dont le nom brille sur le fronton de l'Olympia. En septembre 1986, l'autobiographie de Linda de Souza est adaptée en comédie musicale. La nouvelle star tient son propre rôle, aux côtés d'un comédien prestigieux, Jean-Pierre Cassel. Le jour de la première, Linda de Souza se confie au micro d'Europe 1.
Si cette valise en carton existe aujourd'hui, je le dois à mon fils. À mon fils avant tout, la valise en carton. Parce que sans lui, je ne serais jamais venue en France. Parce que je suis venue en France parce que j'étais fille mère. Et puis je le dois à ma mère, je le dois à mon père, je le dois à toute ma famille parce que cette histoire, ça vient aussi d'une famille pauvre et que je ne veux pas renier la misère que j'avais avant, que j'étais femme de chambre, oui, et qu'eux, ce que je demande à ma mère, c'est qu'elle comprenne tout ça, qu'elle n'ait pas honte de dire qu'on était dans la misère. Moi, je n'ai pas honte. Alors, je demande aux miens qu'ils soient un peu intelligents et qu'ils n'oublient pas. Voilà.
Dans cette comédie musicale inspirée de la valise en carton, Linda de Souza joue pour la première fois la comédie.
J'ai l'impression que les gens ne s'attendaient pas à ça. Bon, j'aime faire rire. J'aime que les gens y voient comme j'étais, vous voyez. Et ça, je n'ai jamais eu l'occasion à travers la chanson de le montrer. Alors, je suis drôle aussi. Alors, voilà, comme ça, ils voient un peu le côté... Un peu les deux côtés que j'ai, parce que je suis très rigolote à la maison. Vous demandez à Jeannot, vous allez voir.
Mais des rires, il y en a peu en vérité au Casino de Paris. Le spectacle produit par Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny Hallyday, est un flop. Après 2 mois d'échec, Linda de Souza craque. Elle ne veut plus continuer. Il reste normalement 1 mois de représentation, mais le producteur Jean-Claude Camus se résout à arrêter le spectacle. Les pertes sont colossal. 5 millions de francs.
La moralité aujourd'hui, c'est que 75 personnes sont jetées à la rue à l'avant-veille des fêtes de Noël. 75 personnes se trouvent au chômage. Et je vous annonce, hélas, la fermeture du Casino de Paris aujourd'hui même.
Le comédien Jean-Pierre Cassel avoue qu'il ne comprend pas le comportement de Linda D'Souza. Lui aurait voulu terminer l'aventure.
Je suis d'autant plus surpris que d'avoir senti tout d'un coup une espèce de détachement de sa part, peut-être même une espèce d'agressivité à mon égard que j'ai jamais suscité et que je continue à regretter et à ne pas comprendre.
Vous la sentiez un peu dépressive ces derniers temps?
Oui, elle était fatiguée, elle était tendue, elle était... Oui, on sentait que c'était quelqu'un qui remuait en elle des choses qui devaient arriver à ce genre de rupture.
Vous avez envie de dire quelque chose à Linda D'Souza?
Je souhaite qu'elle trouve la force de vaincre ses démons.
Face à la polémique, en toute fin d'année 1986, Linda D'Souza sort de son silence.
Je ne suis pas là pour faire la guerre. Pour moi, ce que je veux, c'est faire une mise au point vis-à-vis du public. Que le public sache que j'ai commencé cette comédie musicale avec une grippe. Cette grippe, j'avais 39,5 de fièvre. Cette grippe est transformée en bronchopneumonie. J'ai eu une sinusite aiguë. J'étais devenue sourde de cette oreille gauche. Et c'est très important pour moi pour chanter. Donc j'ai fait des examens à la gorge. J'ai fait une cure à Enghien. Au centre Telmar, là, à Enghien, parce qu'on me disait que c'était très très bon de faire une cure de soufre. Je l'ai fait. J'ai fait appel aussi de piqûres miracles. Et pour moi, la voix ne revenait pas. Et je me sentais voler le public, parce que le public venait surtout pour m'entendre chanter.
Mais progressivement, Linda D'Souza confie une fatigue, une lassitude. Le succès l'a déstabilisée.
Tout a été très très vite pour moi. Je ne me suis pas habituée d'une femme de ménage à la femme de monde. Il y a un grand écart. Et même dans ma tête, quand je rentrais chez moi, je me disais toujours, est-ce que c'est possible que ça me soit arrivé à moi? C'est vrai, je me sens très fatiguée. Mais aussi, vous savez ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une confiance et j'ai besoin que le public sache que je suis une professionnelle et que une chose que je n'ai pas supportée, c'est l'atteinte à mon professionnalisme. On peut dire tout ce qu'on veut que je suis difficile sur scène, c'est vrai, parce que je suis difficile avec moi-même, parce qu'on n'a pas le droit, quand le public est dans la salle, on n'a pas le droit de le voler.
Quant à l'échec de la comédie musicale, pour Linda D'Souza, c'est la faute de la production et du prix des places qui était trop élevé.
C'était un spectacle populaire. On a eu
populaire
des salles
à 100 francs et 200 francs les places, vous savez aussi.
C'était trop cher. C'était trop cher. C'est pour ça que mes Portugais ne pouvaient pas suivre. Et on m'a mis ça sur le dos que mes Portugais ne venaient pas. Si vous faites un sondage, j'aurais aimé que vous le fassiez. C'est trop cher. Pour les familles qui ont 3 et 4 gosses, imaginez-vous les prix. Vous savez ce que je veux que les gens sachent? C'est que je suis un être humain. Je ne suis pas Linda D'Souza, je suis Tio Linda Lança. Je suis une Portugaise, une émigrée, comme tous les autres. Je suis un être humain avant tout. Un être humain a le droit de tomber malade.
Les explications de Linda D'Souza sont confuses, maladroites. Mais elles ont sans doute paru sincères au public parce que 2 ans plus tard, La valise en carton est adaptée en feuilleton par Antenne 2 en 6 épisodes qui seront l'un des plus grands succès de l'année télévisuelle de 88.
Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision.
Levé sans réveil, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe, repasser poussière. Y a toujours à faire, repas solitaire, en point de repère. La maison si nette qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration.
C'était Jean-Jacques Goldman avec La vie par procuration en 1986.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
Le 22 juin 1986, au Mexique, l'Angleterre et l'Argentine s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde de football. L'ambiance est électrique. La rencontre se déroule 4 ans après la guerre des Malouines qui a opposé les deux pays. Et résultat, l'Argentine d'Armando Diego Maradona l'emporte 2-1. Mais le premier but marqué par Maradona n'aurait jamais dû être accordé. Il a marqué de la main.
Maradona.
Oui, oui.
Maradona.
Oui.
Valdano.
Oui.
Maradona, il était là, non, du coin.
De la main.
Non,
de la main. De la main, ce but.
Ah là là, il a
mis de la main.
Il l'a mis de la main. Il n'a pas vu, monsieur Benasseur.
On va le revoir.
Mais c'est évident.
De la main.
C'est clair comme de l'eau de roche. On va le revoir, du reste.
Oh, monsieur Benasseur.
À la 6e minute de la 2e mi-temps.
Et Maradona. Du coin gauche,
et
Maradona.
Oh, on l'a vu immédiatement, du reste. C'est évident. Il n'y a que monsieur Benasseur pour ne pas l'avoir vu. But marqué de la main, du poing, par Maradona.
Oh là 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 là, quel arbitrage !
C'est incroyable.
La justice fait bondir la voix du foot de TF1, Thierry Roland, qui déclare
« Enfin, vous ne croyez pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance ?»
Et dans la foulée, une polémique enfle. Thierry Roland serait-il raciste ? Il s'en explique au micro de Gene Saccomanno sur Europe 1.
Peut-être aurais-je dû expliquer que ça n'avait rien... Je n'avais rien contre la Tunisie en tant que telle, ou contre l'Afrique du Nord, parce que ça n'était pas du tout mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que je regrettais qu'on n'ait pas mis un arbitre d'expérience pour diriger un match qui, de toute façon, avant le coup, était un match difficile, dans le contexte politique d'abord des relations entre les deux pays. Et je pense honnêtement, et je le pense toujours, qu'il aurait été préférable que ce soit un arbitre européen confirmé, ou un arbitre d'Amérique du Sud qui a l'habitude de diriger des matchs difficiles, qui dirige une rencontre de ce type. Voilà ce que j'ai voulu dire. Bon, j'ai pas eu le temps de m'apesantir sur mes propos, mais enfin, je pense que d'avoir pris ça pour du racisme, c'est totalement ridicule et déplacé.
Après l'Angleterre, les Argentins éliminent les Belges 2-0, avec de nouveau une prestation superbe de Maradona qui inscrit les deux buts de son équipe.
Désolé pour Michel Platini et pour notre amour-propre national, mais dans ce mondial mexicain, Diego Armando Maradona s'est imposé comme le meilleur joueur du monde. Il a réussi le parcours idéal, comme son rival français l'avait fait en 1984 au cours du championnat d'Europe des Nations. En effet, en réussissant deux buts stupéfiants hier contre la Belgique, le premier surtout de l'extérieur du pied gauche, il va terminer premier buteur de l'épreuve. Voilà pour l'efficacité. Le roi de Naples et ancien pobrecito des faubourgs de Buenos Aires aura également rattrapé Michel Platini dans un autre domaine, la responsabilité du jeu de son équipe. C'est lui qui, de la voix ou du geste, indique à ses coéquipiers les meilleures options. C'est lui qui, par ses appels de balles, renverse le jeu ou libère des espaces pour le Nantais Buruchaga ou le Madrilène Valdano. Et puis aujourd'hui, Maradona est un homme libre. On ne le massacre plus comme l'avaient fait les Italiens en Espagne. parce que ses adversaires respectent son talent. Guadalajara, Eugène Saccomano, Europe 1.
Et en finale, l'Argentine bat l'Allemagne de l'Ouest. 3-2, sans un but de Maradona, qui rappelle, grand seigneur, que le football est un sport d'équipe.
Je crois que toute la sélection argentine a démontré pourquoi elle est l'équipe la plus forte.
Je crois que l'équipe d'Argentine a prouvé qu'elle était bien la plus forte. Vous savez, il faut vraiment être costaud pour surmonter les doutes qui vous assaillent lorsqu'après avoir mené 2-0, vous vous faites rattraper. Mais toute l'équipe a su réagir et attaquer. C'est une victoire collective, pas celle d'un seul joueur Maradona. Cette victoire, cette finale, a confirmé ce que je dis déjà depuis longtemps. Nous avons une équipe complète dans toutes ses lignes. Arrêtez de ne voir que moi et de croire qu'il n'y a que moi. Personnellement, je dédie cette coupe à tous les enfants du monde. Toute l'équipe d'Argentine s'associe avec moi pour le faire. À tous les enfants du monde, j'envoie un gros baiser.
5 mois plus tard, le monde a les yeux rivés sur un ring de Las Vegas pour la consécration d'une autre icône du sport en 1986, le boxeur américain Mike Tyson, 20 ans, qui terrasse Trevor Brabic. Tyson, le gamin de Brooklyn, devient champion du monde des poids lourds. Et Louis Acariès, ancien champion de France de boxe, mesure l'exploit de Mike Tyson pour Europe 1.
Il a fait l'exploit que tout l'Amérique attendait, c'est de devenir le plus jeune champion des poids lourds de tous les temps. Et bravo Tyson.
C'est difficile encore de dire, Louis Acariès, que c'est un nouveau Cassius Clay, ce Mike Tyson.
Oui, bien sûr. D'abord, il n'a pas la morphologie de Cassius Clay, il n'a pas l'aura de Cassius Clay, il n'a pas l'envergure de Cassius Clay. Non, Tyson est un phénomène médiatique parce que, d'abord, c'est un jeune homme, il a 20 ans, et puis sa force destructive, c'était pas le même style que Clay.
C'est 100 kilos de muscle. Hein.
C'est 100 kilos de muscle pour 1m83, il est assez impressionnant. Une force de frappe extraordinaire. Tyson est un phénomène. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
C'était Queen avec A Kind of Magic en 1986. Je remercie mes plumes, Guillaume Maury et Julien Pichenet, et aussi Boris Paczynski pour la réalisation. Je n'oublie pas Sylvain Denis à la documentation d'Europe 1. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1986, dans le 3e épisode dont De Latte raconte une année.
Retrouvez On de Latte raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.